Bien chers frères et sœurs, je vous propose une courte lecture dans le premier livre des rois au chapitre 17, le verset 1er. Premier livre des rois, chapitre 17, verset 1er. Nous lisons « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Au tout début de son ministère terrestre, dans la synagogue de Nazareth, Jésus a fait allusion au temps d'Élie. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie », a-t-il rapporté. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 25. Les jours d'Élie. Était-il comme une préface aux temps difficiles de la fin, les temps dans lesquels nous sommes déjà entrés? Je le crains. Le temps d'Élie est d'abord un temps qui est marqué par un schisme. Akab, roi d'Israël, est monté sur le trône 62 ans après la division du royaume en deux, du temps de Roboam et de Jéroboam. Le royaume d'Israël attribué à Jéroboam fut constitué de 10 tribus, et l'autre partie sur laquelle régna Roboam n'était formée que de la tribu de Juda et de Benjamin. Comment ne pas voir aujourd'hui, dans notre temps, des schismes, le morcellement de l'Église de Jésus-Christ? Le corps de Christ, l'Église, ne devrait faire qu'un, mais les dominations se réclamant de l'Évangile prolifèrent, et ce pour diverses raisons, la corruption, l'apostasie, les querelles de clochers, l'esprit pharisaïque, l'orgueil, et bien d'autres choses encore peu édifiantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors il est facile de pointer du doigt ceux et celles qui sortent de certaines églises aujourd'hui. Mais on devrait se poser les bonnes questions. Pourquoi des chrétiens sérieux qui, bien que n'étant pas parfaits, qui prétend l'être, pourquoi des chrétiens sérieux qui se sont efforcés de marcher droitement devant Dieu, qui ont faim de la parole de Dieu, qui ont soif de la vie de l'Esprit, pourquoi ces chrétiens-là quittent-ils leur assemblée? Ils meurent de faim spirituellement. On ne leur donne plus le pain vivifiant de la parole de Dieu, mais du verbiage religieux dans une atmosphère de spectacle et de concert mondain. Ils sont donc en quête de nourriture spirituelle et d'une vie de l'esprit authentique. Qui oserait le leur reprocher? Les schismes vont se multiplier et les fractures au sein des églises et des mouvements vont être de plus en plus nombreuses. Jérémie dit de la part de Dieu « Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements ? Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils le devraient. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Jérémie chapitre 8, verset 5. J'entends monter ici et là, dans la bouche des croyants, une réelle impatience. Tous aspirent à se retrouver, comme avant, dans les réunions de l'Assemblée. Alors tout cela est bien légitime. Mais Puisque nous évoquons le problème des schismes, pourquoi ne pas profiter de ce temps de bouleversement, d'arrêt permis par Dieu, pour réfléchir, pour faire le point, pour faire un bilan de la situation? Je suis pleinement persuadé que des pasteurs devraient maintenant s'arrêter et dire « qu'ai-je fait ?» plutôt que de piaffer d'impatience comme un cheval pressé de s'élancer de nouveau au combat. Qu'ai-je fait de ma prédication? Quelle place ai-je donné à la personne de Christ, à la croix, dans mes messages? Qu'ai-je fait de la vie de l'Esprit dans mon Église? Où sont les dons d'inspiration, de révélation, de puissance? Où sont les miracles, les prodiges? Où sont les conversions en grand nombre? Quel est le niveau de sainteté, la vie de prière de la jeunesse de mon assemblée? Qu'ai-je fait? Mes amis, on danse à l'heure où l'on devrait se courber et s'humilier. On invite à la joie là où l'on devrait pleurer dans la repentance. Bon nombre d'églises aujourd'hui ne vivent pas à l'heure de Dieu, à l'heure prophétique, et Dieu s'en afflige au plus haut point. Certes, il y a des Roboams qui cherchent à recoller les morceaux, passez-moi l'expression. Ils pensent parvenir à leur fin en faisant la guerre à leurs frères. La parole de Dieu dit, Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Premier livre des Rois, chapitre 12, verset 21, c'est ainsi que Roboam pensait mettre fin au schisme. Mais comme Roboam, ces hommes-là échoueront. Dieu n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Ce ne sont pas les méthodes de Dieu. Et une voix prophétique stoppa la folle entreprise de Roboam. D'ailleurs, on peut s'interroger sur les motivations du roi et sur ses véritables soucis. Aussitôt après le schisme, alors que la parole de Dieu déclare « Israël s'en alla dans ses tentes », premier livre des Rois, chapitre 12, verset 16, aussitôt le schisme consommé, voici ce que dit la Bible. « Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts. » Premier livre des Rois, chapitre 12, verset 18. C'est-à-dire que, aussitôt après le schisme, Roboam fit ses comptes. Et la première chose qui tracassa son esprit, c'est l'argent qui ne rentrerait plus dans les caisses à cause du schisme. Il semble bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui soucie certains responsables d'église. Au point que des chrétiens, dont on ne prend aucune nouvelle, qui sont malades, qui se débattent seuls dans leurs épreuves, qui pleurent, ces chrétiens-là reçoivent néanmoins de leur pasteur tous les renseignements nécessaires pour continuer à verser leur offrande sur le compte de l'Église. Plusieurs croyants m'ont récemment fait part de leur désarroi, de leur déception et de leur profonde tristesse à ce sujet. Des temps extrêmement difficiles vont venir sur notre pays. Des milliers de personnes vont perdre leur emploi et vont vivre dans la précarité. Des pans entiers de l'économie vont s'effondrer. Des églises engagés dans des projets immobiliers vont être plongés dans des situations inextricables. Et plusieurs départements spirituels de mouvements évangéliques vont être ébranlées, faute d'argent. Dieu a vu la corruption de certains milieux religieux, l'argent mal employé, l'argent détourné, l'argent orienté vers d'autres destinations que celles indiquées par les donateurs, et le temps vient où le Seigneur va juger toute cette iniquité. Je suis pleinement persuadé que Dieu parle fortement et que nous n'entendons malheureusement pas ce qu'il est en train de nous dire. David disait à Dieu au psaume 60, les versets 4 et 5, « Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elles chancellent, tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vain détourdissement. » Bien-aimés frères et sœurs, il est temps de crier à Dieu. Certains prophètes, faussement consolateurs, osent dire que Dieu n'est pour rien dans tout ce qui arrive aujourd'hui à l'échelle planétaire et que tout va rentrer dans l'ordre. Mais comme je voudrais qu'ils aient raison, du moins pour que tout rentre dans l'ordre, car pour le reste, comment penser que Dieu soit étranger et indifférent à l'état de l'humanité et à ce qui survient sur notre terre ? Dieu est sur son trône, il veille à la réalisation de ses desseins, il poursuit ses plans. Ni le diable, ni tous les démons de l'enfer réunis, ni les grands de ce monde, quels qu'ils soient, ni les faux prophètes, n'y changeront quoi que ce soit. Dieu est aux commandes, et nous devrions l'écouter. L'avenir infirmera ou confirmera ce que je vous dis aujourd'hui. En tout cas, je reprends à mon compte ce que Michée disait à Kenaana, faux prophète du roi Achab, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Du temps d'Élie, c'est donc Achab qui règne sur Israël. Achab est un nom qui signifie « frère du Père ». Sur le plan spirituel, ce nom a quelque chose à nous enseigner. Ne sommes-nous pas appelés à être la famille de Dieu, la famille de notre Père céleste ? Comme Jésus s'adressait à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors ». Et il cherche à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu, chapitre 12, les versets 46 à 50. Frères et sœurs, nous sommes appelés à régner. Paul écrit aux Romains, « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Romains, chapitre 5, verset 17. Si nous, qui sommes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, nous sommes dans la proximité de notre Père céleste, nous tenant en sa présence, cherchant sa volonté, son conseil, nous nourrissant de sa parole, nous connaîtrons les uns avec les autres une réelle communion fraternelle. Plus les rayons d'une roue de bicyclette se rapprochent du centre de la roue, plus ils sont proches les uns des autres. Il en est ainsi dans le domaine spirituel. Et c'est là la solution pour mettre fin au schisme dans l'œuvre de Dieu. Achab fut un mauvais roi. Le temps d'Élie est un temps où le péché s'accroît. La parole de Dieu fait un résumé de la vie d'Akab en ces termes. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Premier livre des Rois, chapitre 16, verset 30. Et au verset 33, Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et encore, au chapitre 21, verset 25, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. L'apôtre Paul a prophétisé en écrivant à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et il ajoute quelques lignes plus loin, « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Second Épître à Timothée, chapitre 3, les versets 1 et 13. Dans son discours sur les temps de son retour, Jésus a déclaré « Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. » Matthieu, chapitre 24, verset 12. Comme du temps d'Élie autrefois, le monde et l'Église apostate aujourd'hui s'enfonceront de plus en plus dans le mal. Quelles ont été les pratiques de ce mauvais roi Akab? Quelles sont, au fond, les autres caractéristiques des jours d'Élie? Je résumerai cela par une courte expression, une multitude de péchés. Premièrement, Akab s'est livré aux péchés commis par Jéroboam, qui en son temps avait fait deux veaux d'or pour entraîner le peuple dans le péché. Jéroboam, qui avait établi des sacrificateurs et créé des prêtres pour les hauts lieux, des hommes pris parmi le peuple et non au milieu de la tribu de Lévi, comme l'avait institué l'Éternel. Celui du peuple qui voulait devenir prêtre pouvait l'être. Jéroboam, qui avait établi une fête au huitième mois, une copie de celle que Dieu avait établie, lui, au septième mois. Deuxièmement, Akab prit pour femme Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, s'engageant ainsi dans une transgression flagrante de la loi de Dieu. Akab, c'est l'homme des mésalliances. Troisièmement, il a élevé un autel à Baal, une idole païenne, et il a bâti pour cette idole une maison à Samarie. Et quatrièmement, il fit une idole d'Astarté, autre idole païenne. En un mot, Akab s'est enfoncé dans le péché, loin de Dieu. Et c'est dans ce temps-là que Dieu va trouver son homme, que Dieu va susciter le prophète Élie. Mes frères et sœurs, ne nous plaignons pas de vivre en l'an 2021. Ne regrettons pas de ne pas avoir vécu à une autre époque. Nous n'y changerons rien. Et de telles pensées ne nous avanceront à rien. Considérons plutôt la personne d'Élie en un temps qui ressemble étrangement au nôtre. Le nom Élie signifie « Dieu l'Éternel » ou encore « Mon Dieu est l'Éternel ». Alors je ne sais pas si le prophète pensait de temps à autre ou souvent au nom qu'il portait, mais quel réconfort dans ce nom. Et pour nous, quelle force, quelle consolation, dans le temps où nous sommes, de savoir et de croire que notre Dieu est l'Éternel. Loin de toutes les idoles de ce monde, qui ne peuvent rien faire, qui ne sont que de l'or, de l'argent, du bois, de la pierre, notre Dieu, lui, est un Dieu vivant, notre Dieu vit. Il nous parle, il nous voit, il entend nos prières, il nous touche de sa grâce, il marche à nos côtés. Nous pouvons nous appuyer sur lui à chaque instant. La parole de Dieu précise Élie le Tishbite, c'est-à-dire qu'il était originaire d'un lieu situé à l'est du Jourdain. Une précision qui n'est pas sans importance. Dieu sait où vivent les siens. Il connaît donc les temps, mais aussi les lieux. Que pourrions-nous redouter ? Tout est dans les mains de notre Seigneur. Je voudrais terminer avec une dernière pensée. Élie va rencontrer Achab et il lui dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Voici la traduction littérale du texte hébreu. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant lui je me tiens. » Une autre traduction, la traduction Tob, « au service duquel je suis. » La version André Chouraki, « en face de qui je me tiens. » Quelle église Dieu désire-t-il dans notre temps ? Au temps d'Achab, Dieu a trouvé le prophète Élie. Sur quelle église Dieu peut-il compter aujourd'hui pour proclamer le vrai message, sa parole inspirée? Quelle sorte de croyants peuvent se dresser efficacement contre l'apostasie comme Élie s'est dressé en son temps contre tous les faux prophètes? Ceux qui se tiennent devant le Seigneur, qui se tiennent en face de lui, ceux dont ils sont les serviteurs, ceux-là, Dieu va pouvoir compter sur eux. Le temps vient, et je crois qu'il est même déjà venu, où Dieu va pousser de côté la superficialité religieuse, les apparences, la piété de façade. Et Dieu va chercher ceux qui vont se tenir devant lui, non pour leurs besoins personnels seulement, mais qui vont intercéder sans cesse en faveur de leur pays. Ceux qui vont se tenir à la brèche et devenir des hommes et des femmes de prière qui vont payer le prix d'un lourd et dur combat dans ce domaine. Ceux-là et celles-là vont entendre l'appel du Saint-Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. Que vous puissiez, mon frère, être cet homme-là, que vous puissiez, ma sœur, être cette femme-là dans ce temps si sombre où nous sommes aujourd'hui. Amen.